Radio Spirale. L'islamologue Rachid Benzine s'entretient avec Jocelyn Coulon des mouvements de révolte récents dans le monde arabe à partir d'une lecture éclairée de l'histoire, de la philosophie et des mouvements sociaux qui passent autant par la modernité que par le Moyen Âge et remontent jusqu'au 7e siècle. La rencontre se déroulait dans le cadre du 3e Maghreb du livre francophone à la librairie Olivieri.
Alors, je pense que nous allons commencer cette causerie ce soir. Donc, je suis Jocelyn Coulon, le directeur du réseau francophone de recherche sur les opérations de paix, qui n'a absolument rien à voir avec le thème ce soir. Mais certains d'entre vous me connaissent plus comme analyste de politique internationale pour le journal La Presse et pour la télévision de RDI et de Radio-Canada. Donc, comme vous pouvez le constater avec mes fonctions de directeur sur la recherche sur les opérations de paix, je ne suis pas un spécialiste du monde musulman, du monde arabe, mais je pourrais m'identifier plutôt comme un observateur informé, je l'espère, averti parfois, qui essaie de comprendre ces sociétés-là et qui lit depuis une quarantaine d'années sur le monde arabe, mais aussi sur le monde entier, puisque quand on est chroniqueur de politique internationale, il faut essayer de couvrir l'ensemble des questions internationales. Ce soir, donc, nous avons le plaisir de recevoir, dans le cadre du Maghreb du Livre, qui est organisé par Mourad et la librairie Olivieri, M. Rachid Benzine. Certains d'entre vous, visiblement, le connaissent déjà, puisque les applaudissements ont commencé avant même la conférence. Voilà. Voilà. De vous assumer, c'est très bien. Donc, M. Benzine est un islamologue, un spécialiste de l'islam, et il travaille particulièrement sur les intellectuels musulmans qui préconisent une nouvelle lecture du Coran. Et lui-même, d'ailleurs, publiera au mois de septembre, j'allais dire une bombe, qui s'intitule « La subversion coranique ». Donc, ça devrait aussi faire bouger les esprits et susciter la réflexion, encore une fois, sur l'islam. Évidemment, dans une causerie, l'animateur est là pour lancer la causerie et du coup, peut-être susciter les questions les plus controversés, parce que le monde arabe, le monde musulman est en effervescence. Vous le savez, ça devient un truisme depuis quelques mois, sinon même depuis quelques années de le dire. Mais en même temps, c'est une découverte pour les Occidentaux, puisqu'après tout, depuis 20 ou 30 ans, plusieurs mondes ont connu leur bouleversement politique, sociaux, culturels, que ce soit l'Amérique latine, l'Afrique noire ou l'Europe de l'Est, qui, à un moment donné, se sont libérés de leur chape de plomb politique, sociale ou culturelle. Très longtemps, on s'est demandé pourquoi le monde musulman, et en particulier le monde arabe, puisque les deux ne sont pas la même chose, même s'ils se superposent, comment il se faisait qu'il ne bougeait pas, ou s'il bougeait, il nous effrayait. Et là, je parle toujours en tant qu'occidental, en tant qu'observateur qui regarde ces sociétés-là à travers, bien sûr, le prisme des médias occidentaux qui nous renvoient constamment certainement des clichés sur ce monde musulman et sur ce monde arabe, mais les clichés sont aussi fondés sur certaines réalités. Et je voudrais uniquement en souligner quelques-uns. On voit très souvent dans ces médias, donc, un monde arabe qui est divisé entre des émirs très riches, des sultans très riches, mais des masses appauvries et pauvres, malgré le fait qu'on nous présente ce monde arabe comme étant le moteur de l'économie mondiale, puisqu'il recèle 40% des réserves pétrolières du monde, et peut-être sans doute plus. Donc il y a là un contraste qui vient nous frapper. Le deuxième, c'est des sociétés ultramodernes, comme à Dubaï, mais aussi des sociétés arriérées technologiquement. Troisième contraste, des femmes occidentalisées, mais des femmes aussi qui portent la burqa, ce qui nous interpelle, bien sûr. Quatrième contraste, la finesse et l'exubérance des cultures arabes, qu'on peut constater ici même, pendant ce Maghreb du livre, ou pendant les autres festivals qui sont organisés à Montréal, à Paris ou ailleurs, sur la culture arabe ou la culture musulmane, mais aussi la brutalité des exécutions publiques qui vient là encore nous heurter et nous interpeller sur cette société-là. Puis enfin, des pouvoirs politiques qui nous apparaissent et qui sont tous figés. Lorsqu'on regarde les 22 États membres de la Ligue arabe, le constat est que tous les chefs d'État arabes sont des despotes ou concentrent dans leurs mains tous les pouvoirs. Ce qui, encore là, nous interpelle, puisque nous vivons dans des sociétés plus ou moins démocratiques, bien sûr. On peut avoir un vaste débat là-dessus, mais nous vivons dans des sociétés démocratiques et nous constatons que tout un monde est figé politiquement. Bien sûr, il y a des teintes de gris dans ce monde arabe. Il y a des sociétés qui se démocratisent, qui évoluent. Mais nous sommes interpellés par ce qui nous semble une société sclérosée. Mais certainement que notre invité pourra un peu mieux nous éclairer là-dessus. Alors, les questions qui viennent tout de suite à l'esprit, c'est: après cette nomenclature de faits, discutables sans doute, et nous allons en discuter ce soir, les questions qui nous viennent à l'esprit tout de suite, c'est: pourquoi cette situation particulière du monde arabe? Et je sais que M. Benzine va surtout parler du Maghreb, mais on peut aussi élargir la discussion au monde arabe. Pourquoi cette situation particulière? Pourquoi ce chemin si long vers l'entrée dans la modernité, si je peux m'exprimer ainsi? Il faudrait peut-être définir ce qu'est la modernité, mais en tout cas, cette entrée difficile, cet accouchement difficile. Pourquoi cela semble-t-il si tardif par rapport aux autres mondes qui nous entourent et qui entourent le monde arabe, qui est pourtant physiquement central? Il n'est pas aux antipodes, il est au confluent de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique. Et ces questions, ce n'est pas simplement les Occidentaux qui se les sont posées ou qui se les posent au jour le jour. Mais pour ceux qui ont suivi ces études, au cours des 7 dernières années, les Nations Unies ont demandé à une cinquantaine de chercheurs arabes de produire 5 rapports sur le développement social dans le monde arabe. Et lorsqu'on lit les rapports, le constat, il est très dur face au monde arabe. Il y a donc visiblement une révolution à faire dans ce monde arabe, ou peut-être plusieurs révolutions, que ce soit sur le plan politique, social, culturel, économique, sur les femmes aussi. Pour certains de ces chercheurs, la moitié du monde arabe ne participe pas à ce qui se passe dans ce monde ou à ce qui pourrait se passer dans ce monde. Donc voilà les questions d'un observateur qui lit, qui regarde, qui s'interroge, qui discute avec les autres occidentaux de ces questions-là et qui cherche, bien sûr, à travers les médias, à travers les livres, à comprendre ce qui se passe. Donc ce soir, j'espère que M. Benzine sera en mesure, en tout cas, d'ouvrir la discussion et de répondre à certaines de ces questions. Merci. Alors, M. Benzine.
Merci à vous d'être venu si nombreux aujourd'hui. Je suis désolé d'avoir cette voix, c'est une petite extinction de voix, donc on va essayer de mener cette discussion, ou plutôt cette causerie en termes de conversation. Je crois que lorsque nous parlons de ces sujets-là complexes, il y a tout d'abord un travail de terminologie qui est absolument nécessaire. Hier, nous parlions du monde musulman. Donc nous avions une lecture religieuse de ces sociétés, et aujourd'hui nous parlons du printemps du monde arabe, comme si le monde arabe était finalement un. Donc il y a de la complexité. Il y a de la complexité d'abord liée à l'histoire même de ces sociétés-là. Je crois que pour tout voyageur ou pour tout sociologue ou tout historien, il s'agit de comprendre, me semble-t-il, les sociétés, d'abord dans ce qu'elles sont capables de produire, c'est-à-dire à travers leur propre histoire, leurs propres institutions. Et on ne peut pas comprendre ces sociétés si on n'est pas capable à la fois de faire du court terme, du moyen terme et du long terme. Je crois que ces trois données sont des données extrêmement importantes. Pendant très longtemps, nous avions le mouvement orientaliste qui permettait de pouvoir lire, où les ethnologues lisaient finalement ces sociétés. Et depuis la révolution iranienne, qu'on a appelée entre guillemets la révolution islamique, nous avons mis en place de plus en plus des politologues. Et les politologues ont une vision très court-termiste pour essayer de comprendre finalement ce qui se passe sur ces sociétés. Et rares sont ceux qui ont cette capacité de remonter pour savoir qu'est-ce qu'il s'est passé véritablement dans ces sociétés après les indépendances. Après les indépendances, la lutte des indépendances, cette indépendance a été confisquée dans la plupart des pays travaillés par ce que Mohamed Harkoun appellerait le fait islamique. Vous voyez, je ne dis pas les pays musulmans, mais je dis les sociétés travaillées par le fait islamique. Et cette indépendance a été confisquée par des partis États. C'est-à-dire les partis qui ont participé à cette libération vont se saisir de l'appareil de l'État pour en faire une source de légitimation et une source de force politique. Et à partir de là, faute de légitimité démocratique dans ces sociétés, on va étatiser de plus en plus le phénomène religieux. C'est-à-dire que le religieux va devenir une idéologie du combat où les partis États vont mettre en place, je dirais, des opposants pour justement contrecarrer toutes ces volontés de démocratisation au sens politique. Et dans ces sociétés-là, le seul référentiel où on pouvait contester, c'était le facteur religieux. Et voilà comment l'islam va retrouver, notamment à partir des années 45, de nouvelles fonctions. Et ces nouvelles fonctions, aujourd'hui, nous pouvons les nommer autour de trois. Une fonction de refuge identitaire pour toute une population complètement délaissée. Des éléments de repère, je dirais, pour des activistes. Et ensuite de tremplin politique pour un certain nombre d'acteurs sociaux qui ont besoin ou qui ont la légitimité ou la volonté de s'accaparer, je dirais, le monopole de l'État. L'État va finalement étatiser la religion, mais en étatisant la religion, il va fonctionnariser les savants religieux. Et en fonctionnalisant les savants religieux lui donnent cette légitimité au sens théologique du terme. C'est très important de comprendre ce phénomène-là, ce qui fait que pendant très longtemps, dans les sociétés occidentales, nous n'avons lu ces sociétés-là qu'à travers le prisme religieux. Et les partis États se sont saisis justement de cette volonté, de cet élément repoussoir. à partir de ce moment-là, il y a aussi, me semble-t-il, dans ces sociétés, que l'on prenne par exemple l'Algérie ou le Maroc ou la Tunisie, il y a eu des transitions, démographiques. Ce processus auquel nous avons assisté, il a des éléments dans l'histoire. Ce n'est pas un élément aussi spontané que nous voulons bien le croire. Ce n'est pas du jour au lendemain une population va se dire finalement nous allons descendre dans la rue. Lorsque nous regardons finalement ces blogueurs, nous considérons, ou en tout cas nous voyons qu'ils ont une véritable culture politique démocratique. Mais nous, en Occident, on a refusé de voir la sécularisation de ces sociétés-là. Nous avons refusé la volonté, finalement, de voir que dans ces sociétés-là, c'est simplement je lance simplement quelques pistes pour lancer la conversation entre nous, nous avons refusé de voir que ces sociétés-là étaient des sociétés civiles qui allaient vers ce processus de démocratisation. Et finalement, nous, en Occident, ça nous arrangeait d'avoir en face des dictateurs ou des sociétés non démocratiques. Parce que lorsque vous avez des sociétés non démocratiques, vous pouvez très bien, avoir de la participation ou au moins des négociations en termes de parts de marché. Et ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée est très intéressant, parce que nous, là où en Occident, là où la démocratie est en crise, avoir le taux d'abstention, avoir toutes les affaires que vous avez au Québec, mais que nous avons aussi en France, etc., voilà que de l'autre côté, des gens nous donnent une véritable leçon de démocratie. C'est très intéressant parce que pendant les 50 dernières années, les principes que nous mettons en avant, c'est-à-dire les principes des droits de l'homme, les principes de la démocratie, ce sont des principes qui finalement ont été beaucoup bafoués sous l'autel de finalement du commerce. Maintenant, une fois que j'ai dit cela, comment se déroule ce processus de démocratisation qui est à l'œuvre ou qui va en tout cas continuer à avoir des rebonds dans ces sociétés. Ce que l'on peut constater, c'est que par exemple, ce qui se passe en Tunisie, la question du système, de Ben Ali reste encore posée. Parce que finalement, on se rend compte que l'administration est encore quelque chose qui est très sclérosé. Donc comment faire face à ce système-là qui est suffisamment organisé avec des acteurs sociaux qui n'ont pas intérêt à ce que cela change? Au Maroc, malgré les différents discours du roi, les gens continuent à manifester. Donc rien n'est gagné. Ce qui se passe en Libye pose aussi une véritable question. Comment, lorsque nous avons des organisations quelque part tribales, comment amorcer ce processus de démocratisation, ce processus d'organisation? En Égypte, nous avons encore l'armée qui est l'élément fort à l'intérieur de ces éléments-là. Donc on voit bien que ce printemps arabe contient quand même quelques éléments d'orage. Et ces éléments d'orage sont loin d'être finis. Parce que toute la question, notamment dans le processus de la démocratisation dans ces pays-là, c'est comment arriver à cette idée de la pluralité. Comment arriver à cette idée de la pluralité dans l'espace public. Et donc il se peut qu'à un moment, un groupe qui émerge de cette révolte puisse dire « je suis la voix du peuple » et donc confisquer complètement la conversation possible ou la pluralité à l'intérieur de ce champ, de ces sociétés-là. Donc ce processus de démocratisation va demander... Il me semble-t-il du temps parce qu'on ne passe pas d'une société sclérosée où il y avait des blocages à tous les niveaux, des blocages politiques, des blocages économiques, des blocages sociaux, parce que ce sont des sociétés qui sont en pleine transition et en pleine désintégration de la variable religieuse islamique. Pendant 50 ans, nous avons bricolé de la croyance religieuse avec des bribes de modernité et des bribes de tradition. Donc toute la question, à partir du moment où on s'engage dans un principe de démocratie ou des processus de démocratisation, le principe de démocratisation appelle l'idée de l'institution et l'idée même de la limite de l'institution. Et l'idée de la limite institutionnelle suppose la distinction entre les différentes instances de pouvoir. Le politique, le juridique, le judiciaire, et le troisième élément qui est, j'ai un trou, le législatif. Merci. Comment nous allons articuler ces trois, pôles en les distinguant. Ben, on ne pourra pas le faire s'il n'y a pas un travail non plus s'il n'y a pas un travail théologique. Je crois que en ce qui concerne la variable religieuse et en ce qui concerne la variable de l'islam, l'islam à l'intérieur, en tout cas les intellectuels musulmans, les théologiens musulmans, doivent absolument penser le phénomène de la sécularisation, le phénomène de la laïcité et le phénomène de la distinction, je dirais, des différentes sphères à l'intérieur du champ théologique. Donc comment à l'intérieur du champ théologique nous allons penser cette distinction-là? Parce qu'il ne faut pas croire, ce n'est pas parce que ces sociétés-là, où les slogans n'étaient pas religieux, que les sociétés elles-mêmes ne sont pas travaillées par le fait religieux. Pendant ces 50 dernières années, l'État, dans, je dirais, pratiquement dans une convention entre lui et les partis islamistes, a dit « Vous ne touchez pas au pouvoir, je vous laisse la société ». Et donc pendant 50 ans, nous avons assisté à une islamisation de la société. Nous avons assisté, je dirais, le seul lieu où on était capable de dire quelque chose, c'était au niveau de l'aspect religieux. Et donc cet aspect religieux, il a été utilisé à tort et à travers dans ce que j'appelais tout à l'heure l'idéologie de combat. Vous voyez, ce sont simplement quelques pistes. Ce qui peut être intéressant dans ces révoltes qui doivent se transformer quelque part en révolution, mais ça va demander du temps parce que le principe de la démocratie ne se décrète pas. Le principe de la démocratie est quelque chose qui relève de la pratique. Le changement de l'élite est quelque chose qui est très fondamental. Or, ce que nous avons aujourd'hui, nous avons autour des différents pouvoirs des gens qui sont des parasitaires et des prédateurs. Nous avons des gouvernements qui ont gouverné contre leur peuple et contre la légitimité des peuples à pouvoir disposer d'eux-mêmes. Avec, je dirais, un champ de ruines en termes de l'éducation, sauf en Tunisie. Mais par exemple au Maroc, nous avons un taux d'analphabétisme très très important. Nous avons des blocages à l'intérieur de ces sociétés-là. Pourquoi ? Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des groupes qui n'ont pas intérêt à ce que les choses bougent. Donc toute la question, c'est comment la société civile, comment traduire finalement toute cette révolte populaire qui est passée par Internet, qui est passée par la rue, qui est passée par les femmes, qui est passée par les jeunes. Et c'était une nouvelle génération qui, elle, n'a pas connu justement les indépendances. Donc comment va-t-on traduire politiquement, socialement, toutes ces revendications. Et donc finalement, le grand danger, par exemple, sur le cas du Maroc que je connais bien, le grand danger, c'est le face-à-face entre le roi et la société. Parce que si finalement le roi devient la caisse de résonance de la société, au sens de « je vous ai écouté », mais que la réponse n'est pas à la hauteur de l'écoute, va se poser le problème, à un moment, du mode de gouvernance. Donc, au niveau du Maroc, il y a à la fois le besoin d'écouter cette société, mais il y a aussi besoin que, d'en haut, on puisse permettre à toute la société de pouvoir s'écouter les uns et les autres, vous voyez, pour éviter finalement ce face-à-face. Et la démocratie, c'est aussi cette capacité d'organiser à la fois le consensus, mais surtout le dissensus. Le dissensus est un élément qui est très, très, très important. Et simplement pour terminer, pour continuer un peu la conversation, c'est que en Occident, pendant très longtemps, on a mis en avant, je dirais, le repoussoir islamiste, en disant que ces sociétés étaient incapables, finalement, de se démocratiser. On a dit pendant très longtemps que l'islam était incapable, je dirais, de subir une transformation, était incapable de produire même de la laïcité. Et je crois qu'il y a un enjeu qui est formidable. Et ce qui me semble intéressant, au-delà des points noirs que je peux évoquer, c'est qu'il y a quelque part, me semble-t-il, dans tout le monde, entre guillemets, arabo-musulman, pour aller très très vite dans ce schéma, il y a une fierté qui est née. Et cette fierté, c'est simplement l'idée d'une véritable participation citoyenne, je dirais, de gens qui n'ont plus envie d'être humiliés, mais des gens qui ont envie de participer. Donc si, finalement, les choses se passent comme elles se passent aujourd'hui, je pense que nous en avons au moins encore pendant une quinzaine d'années de transformation de ces sociétés qui passeront par des hauts, par des bas et qui passeront surtout par des compromis. Et toute la question, c'est est-ce que nous, en Occident, on a intérêt à ce que ces sociétés se démocratisent? Et je crois que c'est, à mon avis, la réponse est plutôt du côté négatif.
Merci. Alors, merci pour cette entrée en matière. Je voudrais revenir sur une interrogation que ceux qui suivent un peu les développements au Proche-Orient ou dans le monde arabe, dans le monde musulman, ont lorsqu'ils prennent un peu de recul et examinent l'histoire, mais pas l'histoire très ancienne, mais disons sur un siècle. Il y a eu, à la fin du 19e, au début du 20e, une effervescence politique, culturelle et sociale, que ce soit dans l'Empire ottoman, que ce soit en Égypte, en Syrie, au Liban ou ailleurs, où on avait l'impression que le monde arabe, le monde musulman, regardant l'Occident conquérant, arrogant, mais aussi éclatant de santé, se demandait comment faire, si c'est pas de les rattraper, c'est d'au moins de changer pour pouvoir être à la hauteur des sociétés occidentales. Et il y a eu une éclosion intellectuelle avec des juristes, des écrivains, des politiciens qui ont tenté de faire adopter des agendas réformistes en Égypte, en Syrie ou ailleurs. Et on a l'impression que on revient encore une fois à la fin du 19e siècle avec d'autres paramètres, bien sûr, mais c'est comme si la révolution s'était arrêtée quelque part. Est-ce que c'est en 1920? Est-ce que c'est en 1940? Vous avez dit à partir de 45, on assiste à... Est-ce que vous avez une explication de cette espèce de phénomène où quelque chose a failli émerger, puis soudainement, il a fallu attendre le début du 21e siècle pour que ça recommence?
Je pense qu'il
y a... schématise.
Ah, oui. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs explicatifs. Là, vous remontez autour du 20e siècle. On pourrait remonter un peu avant, c'est-à-dire au niveau même, je dirais, de la Renaissance ou du processus même de la modernité tel qu'il va naître en Europe. Ce que nous constatons, c'est que l'islam en tant que civilisation historique a eu la capacité historique, ou en tout cas a eu l'initiative historique entre le 7e et le 13e siècle. C'est ce qu'on appelle l'âge classique ou l'âge d'or de l'islam, entre le 7e et le 13e siècle, de notre ère. Ce qu'il se passe à partir du 13e siècle, c'est que nous avons un rétrécissement du champ politique et du champ intellectuel dans ces sociétés travaillées par le fait islamique. Et que pendant très longtemps, ce rétrécissement du champ intellectuel est resté tel quel, et l'arrivée par exemple de Bonaparte en Égypte va réveiller véritablement un certain nombre de questions. Et les premiers, les premiers Égyptiens qui étaient à la fois chrétiens et musulmans, lorsqu'ils ont découvert la force de frappe de l'Égypte, de la France entrant en Égypte, se sont posé la question: pourquoi finalement nous sommes dans cette situation-là, et pourquoi finalement l'Occident a eu cette expansion-là. Et donc pendant très longtemps, on s'est battu pour... Ernest Renan, par exemple, disait que finalement les sociétés sémites étaient incapables de développement et nous avions Mohamed Abdo et Avrani, qui étaient les deux réformistes, qui répondaient: non, l'islam il est compatible avec la démocratie, non, l'islam il est compatible avec l'économie, non, l'islam il est compatible avec le socialisme. Donc à chaque fois, la réponse était venue finalement du facteur religieux. Ça me semble très, très important. Mais il faut bien montrer qu'est-ce qui s'est passé autour du XIIIe siècle. C'est-à-dire que pendant que l'Europe s'envolait vers les Amériques, vers la Renaissance, vers la modernité, nous avons eu finalement un retour de plus en plus et de plus en plus sclérosé dans ces sociétés-là. Et c'est ce décalage-là qui a posé problème. Et l'introduction notamment de la colonisation va encore beaucoup plus stopper même le processus d'évolution. Où finalement, le seul facteur de résistance après le politique, ça a été le religieux. N'oubliez pas que le mouvement des frères musulmans Hassan al-Banna en Égypte va mobiliser le facteur religieux justement pour lutter pour l'indépendance. Et donc, à partir du moment où le facteur religieux va devenir déterminant, et lorsque ces partis états eux-mêmes vont se saisir du religieux, je dirais, pour l'étatiser, ben, il n'y a plus d'espace politique. Le seul élément, je dirais, de contestation, ça va être le religieux. Mais ce que je dis, c'est que finalement, si on prend la production des années 50, en termes de pensée intellectuelle, que ce soit à Hussein, par exemple, en Égypte, ou Mohamed Khalaf Allah, celui qui a écrit sur Al-Fan al-Qasas fil Qur'an, c'est-à-dire l'art du récit dans le Coran, il y avait des thèses très intéressantes, notamment sur la poésie. Par exemple, Taha Hussein qui écrit sur Shi'ar Jahili, c'est-à-dire la poésie anti-islamique, il y avait des choses qui pouvaient se dire qu'on ne peut plus dire aujourd'hui. C'est cela qu'il faut voir. C'est-à-dire que après les indépendances, nous avons perdu 60 ans. Nous avons perdu 60 ans où on pouvait justement, je dirais, changer le paradigme du Maghreb pour le mettre, je dirais, finalement, à la hauteur de ce qui va se passer dans l'espace européen. Et malheureusement, les dirigeants ont choisi la fermeture, ont choisi l'idée de combattre contre leur peuple pour justement se donner cette légitimité. Comment peut-on expliquer qu'on passe d'un processus, par exemple en Algérie ou ailleurs, d'un processus où il y avait, je dirais, je dirais tout un élément du langage, du français, etc., une espèce d'arabisation excessive sans avoir préparé la population? Comment on peut expliquer, par exemple, que dans l'espace maghrébin et notamment au Maroc, la philosophie ne va plus être enseignée? Et ce qu'on va mettre à la place, c'est simplement les références islamiques, mais attention, les références islamiques au sens médiéval du terme. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser l'épistémologie historique ou la modernité intellectuelle, ou même les sciences humaines, pour pouvoir lire la tradition. Parce que la tradition, c'est bien, mais avec quels outils nous allons pouvoir avoir ça? Et quelqu'un comme Abdallah Al-Harwi, qui est un historien au Maroc, a bien montré, par exemple, notamment au niveau de Hassan II, comment Hassan II a participé à une traditionnalisation de la tradition, de la société. Et donc, il y a des textes qui sont très intéressants où on demande au roi du Maroc sur l'islam, il dit que l'islam est un carburant. Donc à partir du moment où vous avez cette idée de l'islam comme carburant, cela vous donne la manière dont l'islam va subir véritablement, je dirais, toutes les interventions de l'imaginaire social pour répondre aux besoins de la société. Et en mettant l'islam dans tous ces éléments-là, ben on le subvertit. Et on le subvertit pas dans le sens intellectuel du terme, pas dans le sens analytique, pas dans le sens critique. On le subvertit en donnant le minimum aux gens. Et qu'est-ce qu'on en donne au minimum aux gens? On donne ce qui est licite et ce qui est illicite, et on donne la part identitaire du religieux. C'est-à-dire que le religieux va se traduire par, de plus en plus, une ritualisation excessive, sans le travail critique qui doit s'opérer au niveau de la foi. La foi, la confiance, une foi se doit toujours d'être inquiète. La foi, c'est pas de l'ordre de la certitude. Une foi, c'est toujours une question. Dieu doit rester une question. Mais pour que cela puisse rester une question, il faut qu'il y ait une raison. Il faut qu'il y ait une raison politique, il faut qu'il y ait une raison critique. Et la raison, c'est l'hygiène de l'esprit. Et il faut voir ce qu'on a fait de l'islam. Et l'islam a subi, durant le XXe siècle, les pires violences. On a, je dirais, éclaté complètement cette tradition sans respecter finalement cette tradition. Et donc, quand les gens sont en train de revendiquer l'islam aujourd'hui, la question que j'aimerais leur poser, c'est: qu'est-ce que vous revendiquez? Quel type d'islamité vous revendiquez? Quel type de référence scripturaire vous revendiquez? Et comment vous lisez cette référence-là? Mais parce que, justement, les partis états ne leur ont pas donné la possibilité de pouvoir étudier convenablement leur héritage et de pouvoir choisir à l'intérieur de cet héritage tout ce qui peut être porteur de promesses. Parce que dans chaque héritage, quel qu'il soit catholique, juif ou chrétien ou musulman, il y a des éléments dans la tradition qui peuvent être porteurs de modernité intellectuelle.
Alors, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à propos, finalement, de la confiscation du pouvoir et de l'instrumentalisation de l'islam. Si je vous ai bien entendu, au moment des indépendances, et pour certains pays, ça remonte quand même à 1930-1940, dans certains cas du monde arabe, les dirigeants politiques mettent la main sur la société et finalement l'empêchent de respirer. Où se situe la complicité des élites et même du peuple dans cette confiscation-là? Parce que un ou des dirigeants peuvent le faire, mais on est toujours assis sur un socle aussi d'appui, parce que sinon ça ne peut pas durer. Alors, est-ce qu'on était d'accord avec cette confiscation-là? Et si on n'était pas d'accord, où étaient les lieux de résistance à cette confiscation?
Il y a eu, après les indépendances, il y a eu des véritables débats. Me semble-t-il, que ce soit en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, sur quel type, je dirais, de gouvernance possible. Il faut voir que l'idée de l'importation de l'État, au sens de l'État-nation, tel qu'en Europe on l'a construit, il n'y avait pas ce qu'on appelle en sociologie les cadres socioculturels de la connaissance. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un discours critique. Si vous n'avez pas les gens pour le recevoir, le discours ne peut pas fonctionner. Par exemple, si vous tenez un discours critique sur, l'approche historico-critique des textes religieux, si vous allez dans certaines synagogues ou certaines églises ou certaines mosquées, si l'espace ne le permet pas, ce que vous allez dire va être rejeté parce que les gens ne sont pas, absolument pas préparés à ce type de langage. Et c'est ce qui s'est passé finalement autour de ces sociétés-là. On dit souvent que l'islam, mais chaque fois qu'on dit l'islam, je ne sais pas ce que l'on dit, ce qu'ils entendent par les gens par islam. On dit souvent que l'islam confond le spirituel et le temporel et tout cela, qu'il y a une confusion entre les différentes instances. Il me semble que il ne faut pas l'islam. C'est d'abord une tradition vivante. Il n'existe pas d'islam sans histoire et il n'existe pas d'histoire sans homme. L'islam n'est pas né de manière hors sol comme ça. Et même le discours coranique s'inscrit dans une réalité du 7e siècle, c'est-à-dire qu'il prend en compte l'aspect historique, ce qu'on appelle l'historicité du texte, de même que nous-mêmes, nous sommes inscrits dans une historicité. Donc il y a une double historicité. Parce que souvent, les gens ils disent, oui, il y a l'historicité du texte, mais ils oublient qu'eux-mêmes sont inscrits dans une historicité, dans une tradition qui les porte dans des précompréhensions. C'est à travers ces précompréhensions que nous lisons les textes. Et ce que nous constatons dans ces sociétés-là, c'est qu'il y a une subordination du religieux au politique. Et donc finalement, il faut pouvoir sauver le religieux. Pourquoi ? Parce que le religieux, il peut avoir cette dimension, je dirais, de l'émancipation de la condition humaine, à condition de lui donner les outils critiques pour cela. Mais ce que nous avons constaté, c'est que souvent, la plupart des savants musulmans étaient de mèche avec le pouvoir. Et donc, il disait à la société, on vous donne la possibilité d'exercer votre pouvoir dans la société, vous ne vous occupez pas du politique. Donc, il y avait une espèce de partage des pouvoirs entre les savants religieux et les partis États.
Vous avez parlé de l'esprit critique, mais aussi du fait que pour que cet esprit critique se transmette, encore faut-il qu'il y ait des esprits pour le recevoir, finalement, pour absorber cette critique et certainement d'en faire quelque chose sur le plan politique, social ou économique. Est-ce que vous avez identifié le moment où les esprits ont commencé à s'ouvrir, à accepter, à recevoir ces discours critiques, à les intégrer et finalement à déboucher sur ces révoltes populaires, particulièrement au Maghreb.
Ce que nous refusons de voir dans ces sociétés-là, c'est que ces sociétés-là subissent une sécularisation. Et la sécularisation, ça veut dire aussi la sécularisation des comportements. Et que finalement, on le voit bien que cette sécularisation, si vous prenez par exemple le cas du Maroc sur la transition des démographiques, sur le taux de fécondité, on va constater que finalement sur le taux de fécondité, on est proche de l'Europe. Il y a des transitions qui justement amènent cela. Dans toutes ces sociétés-là, tous les facteurs étaient là pour la mobilisation. tous les facteurs de contestation étaient là. Et il y a eu un miracle, me semble-t-il, c'est le miracle tunisien, où on voyait pendant, je dirais, pendant très longtemps, parce qu'il y a aussi des, je dirais, des proverbes et des blagues qui tournent sur les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, et on pensait que les Tunisiens, finalement, c'était les gens les moins révoltés, et ils ont donné une véritable leçon à la fois aux Algériens et aux Marocains. Et donc, et à partir du moment où il y a eu cette révolte-là, on s'est dit, tiens, ces jeunes-là ont rendu pensable ce qui était impensable. Et je crois qu'une véritable révolution, un véritable événement qui se transforme en événement, c'est lorsque l'impensable advient dans l'histoire. Et je crois que cet impensable est en train d'advenir finalement dans ces sociétés-là, mais parce que je le dis, parce que quelque part il y a une espèce de culture politique et de démocratique qui traverse le monde entier. Et donc on a refusé de la voir finalement dans ces sociétés-là, et ces jeunes et moins jeunes qui descendent dans la rue nous disent que eux aussi revendiquent une démocratisation. La question, c'est quel type de démocratie est en train de s'installer dans ces sociétés-là. Il est clair que nos modèles démocratiques en Occident ne peuvent absolument pas, me semble-t-il, pour l'instant, être pris pour modèle, parce que justement. Et on le voit bien avec ce qui se passe en Libye, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe à Bahreïn, etc. On intervient en fonction des intérêts des uns et des autres. On n'a pratiquement rien dit sur le Yémen. On dit pratiquement rien sur Bahreïn alors que l'Arabie Saoudite envoie des chars, etc. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse pas. Donc il y a quelque chose encore en Occident où on n'est pas finalement, on regarde avec méfiance finalement tous ces processus de démocratisation à l'intérieur de ces pays. Donc on voit bien qu'à la fois le modèle occidental est en panne, et nos démocraties sont véritablement en panne, mais en même temps, on ne peut plus rester dans les anciens systèmes. Et donc, toute l'équation, tout le nouveau paradigme qu'il faut absolument installer, c'est quelle est cette troisième voie qui va, je dirais, s'élaborer dans ces sociétés-là. Et ça, finalement, c'est le côté incertain. On ne sait pas ce qui va sortir de ces révoltes. Mm-hmm. Simplement, ce que l'on peut dire, c'est qu'il me semble que l'idée de l'islamisme en tant qu'idéologie politique, il me semble que finalement ce paradigme est en train de se fermer et qu'il y a un nouveau paradigme qui est en train de s'ouvrir.
Mais vous-même, tout à l'heure, d'entrée de jeu, vous disiez, lorsqu'on regarde la situation en Égypte, on voit bien que l'armée est au cœur du processus actuel, le contrôle pratiquement, l'encadre, et va déterminer un peu la suite des choses dans les prochains mois, sinon dans les prochaines années, que ce soit au niveau constitutionnel ou même sur les candidatures qui seront acceptées à la présidentielle, ou en tout cas qui pourraient faire consensus auprès d'un certain électorat. En Tunisie, on a chassé un homme, une famille, quelques individus, mais on n'a pas mis à bas un système. Au Yémen, ça risque d'être la même chose. En Syrie, peut-être. Alors, on est dans des révoltes, mais on n'est pas dans des révolutions, puisque, me semble-t-il, la révolution, c'est vraiment la substitution d'un ordre par un autre. On change tout l'ordre établi. Lorsque Lénine pulvérise le régime impérial, il change l'ordre des choses. Lorsque le Shah d'Iran est balayé, les choses aussi sont changées en Iran. J'ai l'impression que à quoi nous assistons actuellement au Maghreb ou dans le monde arabe, oui, c'est à une démocratisation, mais les systèmes sont encore en place. Est-ce que ça vous effraie, ça? Ou est-ce que c'est votre constat, et est-ce que ça vous effraie?
Mais il est clair que pour tout observateur, lorsqu'il regarde ces sociétés-là, il est clair que les systèmes sont encore là, il y a encore des résistances, et qu'on ne change pas un système du jour au lendemain. Et pour lui proposer quoi? À partir du moment où pendant 50 années, on a désintégré complètement ce qui relève de la classe politique, ce qui relève même de l'élite intellectuelle. Donc il y a des pays où l'élite intellectuelle ne s'est pas exprimée pendant très très longtemps, ou lorsqu'elle a eu l'occasion de s'exprimer, elle a été récupérée par le pouvoir politique. Donc toute la question, c'est de savoir finalement si ces systèmes vont tenir. Ce que je pense, et en tout cas ce que je vois, c'est que les gens sont prêts à redescendre dans la rue. pour ne pas se faire confisquer cette révolution. Parce que je ne pense pas que ça soit simplement une question de révolte, c'est aussi une révolution. Et une révolution, c'est quelque chose, je veux dire, la révolution de 1789, d'abord la révolution de 1789, on l'a construite en tant que mythe, en tant qu'histoire, en tant que récit, pour aller dans ce qu'on appelle des lieux de mémoire au sens de Pierre Nora, c'est-à-dire qu'on avait besoin de construire cette image-là, mais que la réalité de la révolution de 1789, on est plus dans l'idée de la révolte. Et donc il se peut que ce que nous appelons révolte aujourd'hui, demain nous allons l'appeler révolution. Ce que je peux dire par là, c'est que la rue arabe s'est réveillée et cette nouvelle population est là, ces jeunes sont là. Et je crois que tous les pouvoirs, quels qu'ils soient, auraient tort de ne pas entrer dans ce processus de réforme. Et je crois qu'il y a encore cette capacité de mobilisation. Je pense que même les systèmes qui veulent tenir doivent absolument accepter quelques réformes. Et ça, je crois que on n'y reviendra pas.
Très bien. Alors, j'aimerais bien ouvrir la discussion maintenant aux gens ici. Il y a un micro, donc allez-y.
Oui, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Normand. Depuis l'historicité du monde universel, la religion a toujours occupé une place primordiale, parce que c'est un bouche-trou pour la peur, la culpabilité, en fin de compte. Mais ce que je veux dire, en fin de compte, en résumé un peu, c'est que, est-ce que l'homme a réellement besoin des religions fondamentalistes, comme qu'on a toujours eu? C'est ça, là, je pense, c'est la conscientisation progressive avec le développement économique, essor, ainsi de suite. Mais je pense que dans toute société, c'est extrêmement difficile à changer, justement, parce que la religion a toujours été fait corps avec la politique, malheureusement. Et c'est là, comme la religion catholique, j'en suis un qui a été extrêmement dominé par mon peuple québécois francophone. C'est la misère qu'on a eue. Maintenant, est-ce qu'on doit tout rejeter? Je ne pense pas. Il faut garder des principes, bien sûr, mais spiritualité et religion, c'est deux choses. Moi, j'ai lu beaucoup sur toutes sortes de sujets. L'arabe, je peux pas dire que je connais beaucoup, mais j'ai lu un petit peu quand même. J'ai lu, je pense, il y a quelques mois sur la Perse, là. C'est un pays, je pense, qui m'intéressait beaucoup, parce que je trouvais que c'était d'abord un pays immense, un pays qui était d'une vieille historicité très ancienne. Et ce qui me boguait un peu dans cette histoire-là, c'est que ça me faisait ressembler un peu à nos indigènes d'ici, là, d'Amérique du Nord, par l'animation de toutes sortes de petits dieux qui étaient à base de nature, mais j'ai trouvé ça quand même amusant. Pour moi, c'était une démarcation vraiment un peu spéciale. Moi, je ne peux pas dire que je connais l'arabisme comme tel, là. Alors, mais je lis toujours les journaux. Merci.
Très bien. Donc, alors, votre question, c'est sur le maintien de la religion.
Ben, en fait, c'est pour dire quel est le besoin de la religion. On peut dire que c'est pour les classes, voilà, qui dominent dans les religions, pour prendre le pouvoir. Merci.
Votre question est très claire.
J'aimerais ça.
Je crois que on aurait tort de, à partir du modèle canadien ou du modèle français ou quel qu'elle soit le modèle, de dire que nos modèles sont complètement reproductifs dans ces sociétés-là sans tenir compte de la spécificité de ces sociétés-là. Je crois que la variable religieuse, au sens islamique du terme, travaille la conscience des gens. Donc le problème, c'est comment articuler à la fois ce besoin de démocratisation, mais en même temps, je dirais, laisser la place à la religion de pouvoir aussi s'exprimer. Et puisque il me semble que la religion, c'est pas simplement un opium du peuple au sens marxiste ou au sens positiviste du terme, mais que il me semble que le langage religieux, il a une capacité, c'est-à-dire une poétisation de l'existence. Et cette poétisation de l'existence, à mon avis, ne doit pas non plus être, je dirais, perdue. Il me semble qu'il faut qu'on sorte d'un double mythe. Le premier mythe, c'est de dire que finalement, sans religion, il n'y aurait pas de violence, etc. Et on a vu ce qu'a été capable de produire, notamment la Seconde Guerre mondiale. Le nazisme, c'est au-delà du religieux. Donc il y a quelque part quelque chose qui relève de la violence, de la vérité, du sacré, qui fonctionne en dehors du religieux. Je pense qu'il faut, à mon avis, sortir de que s'il n'y avait pas de religion, on serait bien. Ça, l'histoire nous a montré le contraire. Puis un autre mythe sur lequel, à mon avis, il faut sortir, que si on avait le même Dieu, on serait beaucoup plus heureux. À mon avis, ça ne se passe pas du tout comme ça, quoi.
Donc, vous n'êtes pas d'accord avec le fait que si nous étions tous Américains, nous serions heureux.
Canadiens ou Américains. Monsieur.
Bonjour, Monsieur Benzine. Écoutez, avec grand plaisir que je vous pose une question. En réalité, avec une petite introduction, ce ne sera pas long. On a parlé de...
Il faut dire que tu es syrien.
Bon, voilà. Je suis d'origine syrienne. En réalité, il y avait les... On a parlé de An-Nahda, la Renaissance arabe, fin 19e siècle, début 20e siècle, qui était en réalité qui était l'issue d'un étonnement, d'une crise. Comment ça se fait que l'Occident a tellement évolué et nous, les musulmans, en réalité, dans d'autres termes, pourquoi les infidèles ont réussi à progresser. Nous, on est restés, nous, les fidèles, on est restés où on était.
C'était les termes de l'époque.
Il y avait les gens même de l'intérieur. Mohamed Abdou, c'était de Al-Azhar. Taha Hussein, qui est allé en France, il a étudié, mais aussi c'était quelqu'un qui a reçu sa formation à Al-Azhar. Il y avait aussi quelqu'un... qui a écrit un petit livre extraordinaire, Ali Abdelrazek, l'Islam, l'Islam est le fondement du pouvoir. Et d'ailleurs, à chaque fois quelqu'un a sorti quelque chose de nouveau, il a dû reculer après. Ali Abdelrazek était traité de tous les noms, il était jugé, il ne pouvait plus travailler même. Taha Hussein, on l'a envoyé à l'école parce qu'il était prof à l'université. Ça y est, on l'a envoyé à l'école. Et après, d'ailleurs, elle a reculé. Elle ne parlait plus. Elle n'a pas continué son discours. Parce que toujours... D'ailleurs, Ali Abdelrazek, le problème que si on a permis le débat à ce moment-là, à Al-Azhar, est-ce que la thèse d'Ali Abdelrazek qui dit qu'il n'y a pas de politique en islam? Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit le contraire? On ouvre un débat. Non. Toi, tu dis les choses qui sont complètement contre l'islam et on finit. Alors, c'est ça, justement, ce fait en 1924 qui a préparé le terrain à l'arrivée des frères musulmans. Mm-hmm. Mais le problème aussi actuellement, ce fait islamique, c'est cette domination un petit peu de l'idéologie islamiste à plusieurs niveaux, politique, social, etc. Et ça, c'est vrai aussi. Que le pouvoir politique dans le monde arabe, il a dit à nous l'État et à vous la société. Mmh. Et ça, c'était flagrant en Syrie. En Syrie, l'islamisation de la société était faite par la famille Assad. Mmh. Et justement maintenant, mais je me demande maintenant, est-ce que ce n'est pas en Occident où ça va se jouer, la réforme de l'islam? Ou une nouvelle idée de c'est quoi la foi, c'est quoi? C'est-à-dire... Quelque chose, d'ailleurs, il y a Arkoun, il y a vous, il y a d'autres. D'ailleurs, même en France, c'est en langue arabe, c'est un écrivain syrien, Georges Tarabich, qui a écrit dernièrement de l'islam de Coran à l'islam de Hadith. Alors, c'est, à mon avis, et surtout en France, que ça va se jouer. Mais, je reviens de dire, mais est-ce qu'il y a aussi, parmi ces gens-là qui travaillent, qui font un travail extraordinaire, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de détermination, il nous faut aussi quelqu'un qui parle aux gens ordinaires, avec un langage compris par les gens ordinaires. Quelqu'un comme Tariq Ramadan à l'envers, si vous voulez, qui soit écouté par les millions. Et c'est ça qui nous manque. Ça reste justement tout ce temps. Moi, j'ai lu votre livre et vos articles, etc. Très bien. Mais ça reste quand même un débat intellectuel qui ne touche pas la société, qui ne touche pas les individus. Même les gens en Occident, la majorité des musulmans en Occident n'ont pas accès à ça. Et même ils n'ont pas lutté, et même ils ont peur de lire parce qu'ils sont confortables dans leurs croyances.
Alors, je pense que là, c'est un vaste sujet, là.
Non, mais je peux être que d'accord avec vraiment, je dirais, 99,9% de ce que vous avez dit. Simplement, il me semble que le mouvement de la Nahda ne concernait pas simplement les musulmans. Par exemple, quelqu'un comme Michel Aflaq, a fait partie, justement, c'était un chrétien, il y avait des laïcs, etc. Donc, le mouvement de la Nahda ne représentait pas simplement les musulmans. Vous avez raison de dire finalement, est-ce que ce débat-là, qui doit, me semble-t-il, accompagner, c'est-à-dire que, à mon avis, la bataille ne se joue pas simplement au niveau politique et social, elle va se jouer aussi au niveau religieux. Et pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il y ait une certaine compréhension du religieux qui puisse accompagner ces éléments-là. Et donc, il y a tout un travail théologique. Et toute la question, c'est où est-ce que va s'élaborer ce travail théologique ? Vous venez de citer Georges Tarabichi, il y a aussi moi, il y a aussi Shahrour, il y a des gens, quand Shahrour a écrit Al-Kitab ou Al-Qur'an, donc l'écrit, au sens d'écrit céleste, et le Qur'an qui... donc le Coran qui est l'idée de la récitation, il y a tout un travail qui est là, il y a des ouvrages très très intéressants qui sont là. Simplement, la question c'est, est-ce que les États ont intérêt à ce que des gens comme Georges Tarabichi ou al-marhoum Mohamed Harkoun ou un autre, Nasser Hamid Abou Zaïd, qui a travaillé sur l'analyse littéraire du Coran, est-ce que il y a des espaces possibles pour cette pensée-là? Pas pour dire que cette pensée critique, à mon avis, elle ne prétend pas dire voici le véritable islam, voici ce qu'il faut faire. Elle prend simplement l'idée de voir comment ce que nous appelons l'islam s'est construit dans l'histoire, comment ce que nous considérons être la vérité est le fruit parfois arbitraire de l'histoire. Ce qu'il manque, me semble-t-il, parce que les travaux existent, ce qu'il me semble, c'est le relais entre ce travail intellectuel qui est disponible et le relais. Et ce relais, malheureusement, il est très très difficile à faire. Et il me semble que si on arrive à desserrer l'étau autour de l'islam à travers le processus de demande de démocratisation, peut-être que là, il peut y avoir des espaces dans lesquels des gens vont s'engouffrer pour essayer de faire ce travail-là.
Monsieur.
Bonjour, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit tout à l'heure, mais vous m'avez étonné en disant que après les indépendances, les partis qui étaient au pouvoir avaient étatisé la religion. Car moi j'étais dans l'idée que dès le départ, l'islam est une religion politique. Mahomet était quand même commerçant, chef de guerre, homme politique. Et le premier État islamiste qui a été créé par Mahomet. Alors, à la suite, l'expansion du monde islamique a été une expansion politique et militaire. Et ça n'a pas changé par la suite. Alors, j'ai toujours été dans l'idée que les États du monde arabo-musulman réalisaient cette fusion entre le politique et le religieux. Et où il y a eu cassure, c'est justement à la période de la colonisation, car là est arrivé un colonisateur qui a dit « Halte là, nous on vient, mais il y a séparation entre l'Église et l'État ». Peut-être pas au début de la colonisation, mais enfin pour le Maroc, certainement, la loi de 1905 était déjà passée. Donc, j'ai l'impression que ces partis qui ont pris le pouvoir, qui étaient au pouvoir... n'ont fait que se raccrocher à une tradition ancienne des pays arabo-musulmans, où il y avait fusion entre le politique et le religieux. Alors, justement, en France, il y a des penseurs, des gens qui travaillent, qui voudraient faire évoluer. Je vais en citer un, j'ai lu deux ou trois ouvrages de lui, c'est Malek Chebel. Je ne sais pas si pour vous, c'est un auteur de référence, mais enfin, il a l'air d'être honnête dans sa démarche, à vouloir laïciser, je dis ça comme ça, le terme n'est peut-être pas exact, mais laïciser les pratiques religieuses. Pour que précisément, et je serais d'accord avec ce que disait mon prédécesseur, c'est peut-être en France que ça va se jouer, justement, cette carte de modernisation de la pratique religieuse du monde islamique. Justement, parce que le terrain est favorable. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi ne parle-t-on pas ? Parce qu'il y a quand même une dimension spirituelle dans l'islam. Il me semble que c'est le soufisme. Pourquoi ne nous parle-t-on pas davantage ? Pourquoi ne voit-on pas davantage de pratiques ? Pourquoi est-ce que c'est pas connu davantage ? De façon que l'on puisse, un peu comme dans le monde chrétien, séparer le spirituel de ce qui ne l'est pas et qui, dans le fond, relève de la société. Voilà un peu ma question de fond.
Eh bien, merci.
nous ont posé des questions. Simplement, il me semble qu'il ne faut pas, me semble-t-il, projeter nos élaborations tardives sur le politique et le religieux, sur l'espace de l'Arabie du 7e siècle. Là, vous venez de citer le prophète de l'islam. Il me semble que d'un point de vue anthropologique, parce que il ne faut pas simplement avoir une lecture, je dirais, religieuse des textes fondateurs, une lecture simplement théologique. Il me semble que ce que vous appelez un État islamiste, selon vos propos, c'est une confédération tribale. Le discours coranique s'inscrit dans l'espace méditerranéen et dans l'espace de l'Arabie du 7e siècle. Et l'organisation du système politique était un élément tribal. Donc, et le discours coranique propose justement cette alliance avec Allah pour justement faire une confédération tribale. Et cette confédération tribale, tous les gens qui acceptent le pacte de cette confédération tribale peuvent entrer dans cette nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, il y a à la fois des juifs, des chrétiens, de ce qu'on appelle des religions païennes. Donc il n'y a pas l'idée que le prophète de l'islam aurait créé un État islamiste ou un État musulman est une vue de l'esprit. C'est faux historiquement. Ensuite, tous les historiens vous montreront que l'expansion, je dirais, de la civilisation islamique ne s'est pas faite selon notre imaginaire sous l'idée de la violence. Par exemple, à Byzance, vous avez beaucoup de gens, notamment des juifs et des chrétiens, qui ont ouvert les portes de Byzance pour que, justement, ce mouvement-là naissant puisse s'introduire. Parce que pour eux, c'était vu comme une espèce de libération par rapport au joug byzantin avec les différents types de croyances. Je ne vais pas entrer sur le concile de Nicée, etc., etc., etc. Donc ça me semble important de bien l'inscrire dans l'histoire. Mohamed Harkoun avait l'habitude de dire que l'islam est théologiquement protestant et politiquement catholique. Qu'est-ce que ça veut dire que l'islam est théologiquement protestant et politiquement catholique ? Théologiquement protestant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'intermédiaire entre le croyant et son Dieu. Or, on ne cesse de nous mettre des intermédiaires, la tradition, les savants, les juristes. Donc à chaque fois, chacun qui prétend dire le véritable sens du verset. Et pourquoi politiquement catholique ? Parce que ce pouvoir a été confisqué par l'État. Et c'est cette idée de la subordination du religieux par le politique. Si on regarde d'un point de vue historique, qu'est-ce qui s'est passé ? L'État, jusqu'au 1258, ne devait pas s'immiscer dans les querelles théologiques entre les savants. Donc il y avait bien une distinction entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Lisez Olivier Carré sur l'islam laïque qui vous raconte cela. Donc le problème, c'est que nous projetons des choses sur le monde, entre guillemets, musulman, des représentations qui sont fausses et que les musulmans ont fini par intégrer eux-mêmes sans interroger leur propre histoire. Et on leur a dit, il n'y a pas de temporel, spirituel, tout ça est mélangé. Mais cette distinction entre le temporel et le spirituel, j'ai un certain nombre d'amis chrétiens qui disent, oui, dans les évangiles, il y a marqué, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc il y a déjà l'idée de la laïcité. Je dis, ah bon ? Ben, ça veut dire que tout le processus de la chrétienté n'a pas été suffisamment laïque. Je crois qu'il ne faut pas, me semble-t-il, penser que l'évolution de ces sociétés-là repose sur un texte. À mon avis, ça c'est une donnée qui relève du fondamentalisme, en pensant que c'est le texte qui oriente le comportement du croyant. Ce que nous voyons aujourd'hui dans tous les espaces marocains, algériens, tunisiens, c'est une sécularisation de la pratique. Il y a effectivement un phénomène d'islamisation, mais aussi un phénomène de désislamisation que l'on refuse aussi de voir dans ces sociétés-là. Et si toutes les enquêtes sociologiques montrent qu'il y a une véritable sécularisation de la pratique dans ces sociétés. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi nous refusons d'entendre cela.
Monsieur.
Oui, bonjour. Vous parlez de subversion coranique, ensuite vous avez la nostalgie de la note poétique dans le religieux. Mais au fond, est-ce que vous pensez-vous que l'islam en Afrique du Nord, puisque c'est le titre de la causerie, est-il un facteur libérateur, oui ou non ? Ensuite, dans quelle mesure l'Occident, qui souhaite en apparence aujourd'hui la réussite de ces révolutions, n'est-il pas lui-même un facteur du retard de ces révolutions, de l'apparition de ces révolutions? Et pour parler de la question de la laïcité, est-ce que, d'après vous, l'Occident devrait crier au scandale, admettons le cas où en Tunisie, par exemple, une assemblée constituante décidait que la valeur commune historique du peuple est l'islam et que, par conséquence, l'islam était la source de législation pour le judiciaire, tout en supposant l'indépendance des appareils exécutifs, politiques, législatif et judiciaire. Merci.
Quand je parle de la subversion, je parle de la subversion en tant que ouverture d'un nouvel espace lorsque l'histoire est fermée et que ce nouvel espace correspond à l'émancipation de la condition humaine. C'est-à-dire que le discours coranique, pour moi, il a cette capacité de subversion dans la mesure où c'est au nom d'un Dieu qu'il prétend libérer, si vous voulez, le discours prophétique général, que ce soit de celui de Moïse, de Jésus ou du prophète de l'islam, c'est toujours au nom d'une divinité contre un pouvoir des hommes pour libérer les hommes. C'est au nom de Yahvé, je vous délivre du pouvoir de Pharaon pour une utopie, la sortie pour une terre promise. De l'autre côté, c'est au nom du Père, je vous délivre du pouvoir du Sanhédrin et de César pour la conversion, pour l'avenue du royaume des cieux. Et de même, le discours coranique, c'est au nom d'Allah, je vous délivre de toute l'idée du clan, des Quraysh, etc., pour l'Hijra, c'est-à-dire au sens de l'Hijir, pour l'idée d'une utopie de la Oumma, au sens de la communauté, je dirais, croyante. Donc, le discours, il a cette capacité de, je dirais, de venir bouleverser l'ordre, mais toujours, c'est une pulsion de vie, c'est pas une pulsion de mort. Ce qui me fait aller vers votre deuxième question. La question, c'est toujours de quel type d'islamité nous parlons. Il y a des islamités qui peuvent bloquer, puis il y a des islamités qui peuvent être suffisamment émancipatrices. Il y a des islamités qui peuvent vouloir faire la guerre aux autres, puis il y a des islamités qui, à l'intérieur du champ ou du référentiel islamique, sont capables d'apporter ce processus de libération en s'appuyant sur l'instance référentielle des textes. Vous voyez, donc toute la question, c'est, lorsque nous disons islam, qu'est-ce que nous disons? Parce que dès que nous disons islam, nous disons un certain nombre de lectures, parce que l'islam a une traduction historique d'un point de vue théologique. Là, je sais pas si la question se pose ainsi. Moi, il me semble qu'elle ne se pose pas ainsi sur le texte coranique, parce que pour répondre à cette question, il faut développer toute une herméneutique. Et là, il me semble que c'est pas l'objet de la discussion, et on pourrait en parler après si vous le souhaitez, sur quel type d'herméneutique sur le texte, et en essayant de voir notamment sur les écoles juridiques, comment chaque école juridique à essayer à l'intérieur d'une école théologique, parce que chaque école juridique s'appuie sur une école théologique, pour essayer de tirer une norme du texte. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que la norme n'est pas dans le texte. La norme est toujours une construction sociale et historique, entre le texte, le contexte et le lecteur. Donc quand on parle de loi divine, il est très difficile de parler de loi divine, puisque les versets eux-mêmes, en fonction des pays, ne sont pas interprétés de la même manière. Par exemple, simplement sur l'idée de la polygamie, qui va être interdite au nom d'une certaine lecture du texte en Tunisie, et qui va être tolérée ailleurs, ou du moins être réduite dans sa pratique, par exemple, dans le cadre du Maroc. Donc tout dépend de la lecture que nous allons faire des textes. Donc ça peut être soit un blocage, soit ça peut être quelque chose qui relève d'une émancipation. Simplement, ce que je dis, c'est que ces processus de démocratisation à l'intérieur doivent être accompagnés par un travail théologique. Un travail théologique pour penser véritablement, me semble-t-il, ce phénomène. Et ce que vous avez dit sur l'Occident, je suis complètement d'accord avec vous, l'Occident a participé au retard de ce processus de démocratisation dans ces sociétés. Je l'ai dit tout à l'heure et vous avez tout à fait raison.
Monsieur.
Oui, très rapidement. Un aspect qui m'intéressait, parce que j'étais juriste et j'ai fait une spécialisation en droit international, j'avais notamment donné une fois une conférence il y a 20 ans dans le cadre du conflit entre le Koweït et l'Irak. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point un certain nombre d'États arabes, surtout au Mashrek, que ce soit l'Irak, la Syrie, Israël, la Jordanie, le Koweït, l'Arabie saoudite, sont des États qui se sont créés artificiellement. Et donc, c'est comme un peu les conséquences du traité de Versailles qui ont causé la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que le pétrole, en particulier, a joué un rôle très important dans le fait que l'Angleterre, en particulier, avait conclu un accord secret avec le Koweït en 1899, alors qu'il faisait partie nominalement de l'Empire ottoman, pour avoir un monopole dans les concessions pétrolières. Et en 1914, l'Angleterre a profité de la Première Guerre mondiale pour faire en sorte que le Koweït se déclare indépendant par rapport à l'Empire ottoman. Même chose, on parle de l'Égypte. Je lisais encore, par exemple, les mémoires du dernier vice-roi d'Égypte avant qu'il ne soit détrôné parce qu'il était considéré comme trop favorable à l'Empire ottoman, puisqu'à l'époque, l'Égypte faisait nominalement partie de l'Empire ottoman. Et il a été détrôné parce qu'il se trouvait à Istanbul au moment où l'Angleterre entrait en guerre contre l'Empire ottoman, et on le trouvait trop proche des intérêts de l'Empire ottoman, lui faisant même partie d'ailleurs de la même élite ottomane. Et lorsqu'on lit ses mémoires, que je trouvais ça très intéressant par rapport à ce qui se passe en Égypte aujourd'hui, il dit « Depuis le 19e siècle, c'est l'armée qui arbitre le pouvoir en Égypte. » Donc, rien n'a beaucoup changé. L'autre chose aussi dont je voulais faire mention, à titre d'observateur non musulman, c'est que mes recherches et mes intérêts dans l'islam m'ont fait prendre conscience en particulier qu'il y a également une très grande richesse dans d'autres éléments de l'islam, comme par exemple les traditions chiites, le chiisme du Haut-Lessimin, le chiisme ismaélien, et qu'à la différence justement des traditions sunnites qui, à partir de certaines parties du Moyen-Âge, l'époque sédjoukide, ont interdit l'enseignement de la philosophie dans les médressés, les traditions chiites l'ont conservé même encore aujourd'hui, et malgré le fait qu'on peut critiquer l'Iran sur bien des points, du point de vue intellectuel, pour moi, ce n'est pas du hasard que l'Iran est une des principales puissances importantes du Proche-Orient et au niveau intellectuel, au niveau scientifique et tout cela. Ils ont rattrapé l'Occident et comme par hasard, dans leurs académies, leurs académies théologiques, que ce soit à Rome, que ce soit également à Meshed, que ce soit également en Irak, à Karbala ou à Najaf, ils enseignent la philosophie grecque. Or, tout cet héritage-là, qui existait au Moyen-Âge dans les traditions sunnites jusqu'au XIIIe siècle, a été complètement éliminé.
Une réflexion là-dessus ?
Non, ce que je ne peux que aller dans ce sens-là, il est vrai que dans le monde chiite, la production intellectuelle est de loin la meilleure par rapport aux autres pays dits musulmans. Vous avez des gens qui sont très importants au sein du clergé, quelqu'un comme Mojtahid Shabestari, ou quelqu'un comme Abdel Karim Sorouch, ou quelqu'un comme Mohsen Kadivar. Vous avez des gens qui sont suffisamment inscrits dans la tradition chiite et qui développent une herméneutique en s'appuyant à la fois sur une herméneutique de Gadamer. Par exemple, Mojtahid Shabestari va s'appuyer sur l'herméneutique de Gadamer d'Heidegger. Il a étudié à Berlin. Et donc il y a tout un travail, me semble-t-il, qui est là. Il y a aussi un travail de traduction. J'ai eu l'occasion d'aller à Téhéran pour des conférences vous avez Heidegger qui est traduit, vous avez Derrida qui est traduit, vous avez Michel Foucault qui est traduit, vous avez Paul Ricoeur qui est traduit. Il y a une véritable politique de la traduction. Et toute la question, c'est tous les pays maghrébins, et ça serait très intéressant de voir combien, justement, de livres ils traduisent par an. Alors pas beaucoup, zéro, pas beaucoup. Donc ça montre bien que à partir du moment où vous refusez, vous ne donnez pas la possibilité aux gens de traduire, c'est-à-dire que vous restez sourd à l'évolution de la pensée de ce qui se passe. C'est-à-dire que il est très difficile aujourd'hui, par exemple, de faire de l'herméneutique coranique sans passer par Emmanuel Kant. L'introduction et la rupture qu'il introduit sur l'idée de la métaphysique chez Kant. Il est très difficile aujourd'hui de faire une herméneutique si on ne s'appuie pas sur les théories de la linguistique. Parce que si vous restez dans les outils de la tradition islamique, tels qu'ils ont été conçus dans ce que Michel Foucault appelle une épistémé, c'est-à-dire un cadre dans lequel l'ensemble des discours au paradigme vont s'élaborer, il y a des discontinuités dans l'histoire. Ça veut dire que vous n'admettez pas cette discontinuité. Ça ne veut pas dire que tous les outils de la tradition islamique sont à jeter, c'est pas ça que je dis, parce qu'il y a des leviers puissants au sein de cette tradition-là. Simplement, il me semble qu'il faut pouvoir conjuguer à la fois, je dirais, les théories de la linguistique, de l'anthropologie, de l'histoire, avec les outils de la tradition islamique. Et c'est comme cela qu'on va pouvoir, me semble-t-il, faire advenir de nouvelles lectures qui vont accompagner tous ces changements. Mais je crois que un des enjeux, me semble-t-il, dans les années aussi à venir, c'est cette collaboration entre les sunnites et les chiites. Comme il y a eu entre les catholiques et les protestants, à un moment, il va falloir penser que il n'y a pas que les sunnites qui sont dans le vrai, et il n'y a pas que les chiites qui sont dans le vrai. Parce que ce qui se passe là-dedans, c'est une source de légitimation. Vous avez deux groupes qui se sont distingués à partir du 9e siècle, pas avant. Hein, au temps de Ali, le cousin et les gens du prophète, on ne parlait pas du chiisme. Le chiisme n'existait pas. C'est à partir du 9e siècle que vont s'élaborer deux groupes distincts qui chacun va revendiquer le monopole de la vérité. Et donc, il faut pouvoir étudier ce monopole de la vérité dans son processus historique et le déconstruire. Parce que dans cette déconstruction-là, on verra comment ces systèmes, que ce soit les systèmes sunnites et chiites, ont subi des systèmes d'exclusion réciproque. Et c'est ce travail-là qu'il va falloir faire. Parce que si ce travail-là n'est pas fait sur l'héritage, pour accompagner ces révoltes et ces révolutions, on risque tôt ou tard de s'essouffler face aux impensés de l'histoire. Merci.
Bonsoir Monsieur Benzine, bonsoir Monsieur Coulon. C'est vrai que vous avez expliqué qu'il y a assez de causes qui expliquent un peu les révoltes qu'il y a actuellement dans le monde arabe. Le monde arabe est en déliquescence sur tous les points de vue. Et la révolte des jeunes est vraiment quelque chose d'assez noble et d'assez beau à voir aussi. Mais il me semble qu'il y a quelque chose qui a été un peu occulté, c'est que ces jeunes-là ont été financés, ils ont été aussi formés, pour la plupart d'entre eux, au moins les gens qui dirigent. Puis maintenant, on connaît, on sait, il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Ne pensez-vous pas que ces révoltes vont être confisquées par ceux qui l'ont financé?
Qui sont ceux?
Ils ont financé. Ouais, actuellement, beaucoup d'écrits montrent que justement que des organismes comme Freedom House, comme la NAD, comme USAID, qui ont formé des gens depuis déjà 2004-2005, il y a énormément d'argent qui a été dépensé pour la formation de ces jeunes. Les noms sont maintenant sortis. Et on se dit, bon, c'est vrai que la révolution pour faire fuir un régime autocratique, c'est quelque chose de positif. Mais au-delà de l'action même de mettre ces gens-là dehors, ce que je ne comprends pas, par exemple, c'est que ces cyberactivistes qui ont fait la révolution, une fois que la révolution est faite, ils ne participent pas à la formation de ce nouveau pays. On le voit très bien maintenant en Égypte, on le voit assez bien en Tunisie. Il y a juste Slim Amamou qui est ministre maintenant ou secrétaire d'État, mais disons, on ne les voit plus. D'ailleurs, même quand il y a des délégations qui viennent de l'étranger, en Égypte par exemple, ben, ils ne sont même pas reçus, ces gens, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas écoutés. Ils sont obligés d'aller manifester sur la place Tahrir, etc. Donc je me dis, ces jeunes ont fait un travail de fond, un travail très positif, etc. Et puis, moi, je ne veux pas verser aussi sur la théorie du complot, mais disons que il y a des millions de dollars qui ont été dépensés depuis 2005. Juste en Égypte, c'est au-delà de 20 000 dollars par an, juste en 2009, qui a été dépensé pour l'Égypte, juste pour former l'Égypte. Il y a au-delà de 10 000 personnes qui ont été formées par USAID depuis 2005. 10 000 personnes, puis il y a des références, on peut vous les donner. Je me dis, mais pourquoi les États-Unis vont mettre autant d'argent? Autre chose, si on voit par exemple ce qui s'est passé juste 9 jours après le départ de Ben Ali, il y a eu 4 dirigeants de haut niveau, dont Hillary Clinton, etc. Ils sont venus juste après l'arrivée. C'était les premières personnes à être sur place. Je me pose des questions, puis je me demande s'il n'y a pas une espèce de confiscation de révolution ou de révolte qu'on peut voir poindre à l'horizon. Et puis, ça pourrait expliquer aussi pourquoi il n'y a rien qui se passe actuellement.
Je dirais même si c'est financé pour une fois qu'il finance quelque chose qui peut profiter au peuple. Donc c'est pas négligé. Maintenant je pense que en tout cas le 20 février par exemple, j'étais au Maroc et donc j'ai été voir la manifestation et j'ai vu les différents groupes et j'ai pu un peu discuter avec un certain nombre de groupes et j'ai des amis tunisiens qui font des allers-retours aussi en Tunisie pour essayer de voir un peu ce qui se passe. Il me semble que même s'il y a une volonté de manipulation ou peu importe comment nous appelons ça, je crois que c'est quelque chose qui va échapper à tout le monde. cette révolution-là, cette libération de la parole, va échapper même à ceux qui l'ont initiée, et tant mieux. Tant mieux dans la mesure où elle va permettre qu'il y ait, à mon avis, la chose la plus difficile qu'il va falloir absolument tenir, coûte que coûte, quel que soit ce qui peut arriver autour de ces révoltes ou de ces révolutions, c'est cette idée de la pluralité. Je pense qu'une société fonctionne mieux à partir du moment où on accepte qu'il y ait une pluralité de voix qui puisse s'exprimer. Et comme je disais tout à l'heure, le grand danger, c'est qu'il y ait un mouvement qui se lève et qui prétend parler au nom de tous les autres. Et cette idée de la confiscation me semble en tout cas très difficile. Le deuxième élément qu'il va falloir introduire, c'est comment amener tous ces jeunes à intégrer des appareils politiques. Et ça, c'est la grande difficulté. Par exemple, qui se passe au Maroc ou en Tunisie, intégrer quoi, comment, et etc. Est-ce que les gens vont accepter de se laisser bousculer? Donc je dirais que, comme dans toute révolte, comme dans toute révolution, il y a plein d'incertitudes. Mais en même temps, il faut être capable de, je dirais, d'être aussi à l'écoute de cette espérance qui s'est traduite. Et au-delà, moi, je crois que l'Europe, plus que les États-Unis, doit absolument, me semble-t-il, soutenir ce type de mouvement. Pourquoi ? Parce que dans le cadre du Maghreb, même dans le cadre de l'islam, l'islam et le Maghreb a une longue histoire avec l'Europe, ce que n'a pas les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas suffisamment de mémoire. Ils n'ont pas suffisamment d'histoire et de mémoire, alors que l'Europe et l'islam ont cette idée commune, finalement, même autour de l'espace méditerranéen. Et donc toute la question, c'est est-ce que l'Europe va être capable d'écouter cette promesse? Est-ce qu'elle va dire « j'ai entendu cet appel et je vais accompagner cette promesse » ? Moi, je crois beaucoup plus à l'espace, je dirais, européen que les États-Unis là, parce qu'on a vu très bien comment Obama hésite sur Bahreïn, comment il a hésité sur le Yémen et comment il a hésité sur la Syrie. Ce sont des données qui sont fondamentales et pour dire qu'on ne change pas de politique du jour au lendemain en voulant je dirais l'émancipation de ces peuples-là, parce que finalement l'émancipation ou la démocratisation de ces peuples-là ne nous arrange pas quelque part.
Alors, une dernière question, madame.
Oui, moi je vais demander plus une question concernant le Maroc. Tout à l'heure, vous aviez dit que par rapport à l'écoute, si l'écoute est plus grande qu'une action en regard des réformes à faire par rapport aux revendications exprimées, il se peut qu'il y ait un face-à-face avec le roi et ça serait dommageable parce que va se poser le problème de la gouvernance. Alors moi je me demandais, est-ce que ça ne serait pas justement une bonne chose qu'il n'y ait plus d'interface entre la royauté et le peuple, ou en tout cas entre les mouvements de révolte et le roi. Et deuxième question, est-ce que s'il faut qu'il y ait une interface, est-ce que vous pensez, comme vous disiez tout à l'heure, que la religion doit être partie prenante d'un processus de démocratisation, est-ce que c'est cette interface que vous envisagez pour justement éviter ce face-à-face qui pourrait être, qui à mon avis peut être salutaire?
En ce qui concerne le Maroc, je voudrais préciser ce que j'ai dit, c'est que le Maroc a engagé, et ça je crois que toutes les politiques internationales le montrent, le Maroc a engagé pendant ces 10 dernières années un certain nombre de processus, je dirais, de réformes. Le problème sur lequel nous butions jusque-là, c'est que nous étions arrivés au bout de ces réformes et que ces réformes avaient besoin finalement d'un nouveau souffle. Et ce qui se passe dans le monde dans le monde arabe, pour aller très vite, peut être une véritable chance pour le Maroc pour accélérer le processus finalement de ces réformes. Et je crois que dans le dernier discours du roi, il y a, me semble-t-il, une vraie volonté, en tout cas, de permettre au gouvernement et au Parlement de jouer davantage cette idée de l'interface. Et donc, du coup, il me semble que si on regarde même dans l'histoire, même la plupart des rois, il y a toujours l'idée, me semble-t-il, de perdre un peu plus de pouvoir, mais tout en gagnant en instance de l'autorité légitimante.
Donc il se peut que le roi du Maroc, je dirais, délaisse un certain nombre de prérogatives ou un certain nombre de pouvoirs. Mais il y a derrière cela une possibilité, je dirais, d'instaurer de manière encore beaucoup plus durable la légitimité royale. À mon avis, il faut bien comprendre que le système de royauté au Maroc est un système qui existe depuis 12 siècles. Donc il y a une continuité historique. Le Maroc a été le seul pays qui n'est pas rentré sous le joug, je dirais, de l'Empire ottoman. Donc il y a une continuité historique. Et toute la question, c'est est-ce que les Marocains vont être capables, justement, de prendre cette continuité historique pour la transformer? Et je le disais tout à l'heure, le face-à-face peut devenir quelque chose qui est très difficile. Parce que si les revendications sont de plus en plus importantes et que la capacité d'action et de réaction sur le terrain n'est pas à la hauteur, donc il va y avoir de plus en plus, je dirais, de revendications. Et ce face-à-face n'est pas souhaitable. Pourquoi ? Parce qu'il faut introduire un troisième élément, comme un triangle, hein, comme un triangle. Et ce troisième élément, c'est certainement pas le facteur religieux qui peut l'être, parce qu'il a été suffisamment mobilisé. Ça ne peut être que le Parlement, ça ne peut être que le gouvernement, et ça ne peut être que la société civile. Et la société civile a un vrai travail, me semble-t-il, à faire, mais surtout, elle a veillé à cette idée de la pluralité, puis que cette révolte ne soit pas confisquée. Parce que le grand problème, c'est que nous avons des gens qui vont essayer de confisquer ces voix, et il est très facile aujourd'hui de confisquer cette pluralité-là. Et que ces systèmes-là, ils ont une capacité de résistance beaucoup plus importante qu'on ne le croit.
Est-ce que la monarchie constitutionnelle, presque constitutionnelle, est pour demain ?
Je dirais que la monarchie constitutionnelle pourrait être envisageable à partir du moment... Oui, presse constitutionnelle ou parlementaire, appelons-la comme on la veut, parce qu'il n'y a pas de nomination encore. À mon avis, elle peut être envisageable à partir du moment où nous aurons un gouvernement qui est fort et un parlement qui est fort, et donc que chacun joue son propre rôle. Et que c'est à partir du moment où on a un gouvernement fort et un parlement fort qu'on peut avoir une société civile forte. Vous voyez, ce sont ces trois conjonctions qu'il va falloir réaliser dans les prochaines années au Maroc.
Alors, par des partis politiques représentatifs pour créer ce gouvernement fort.
Je pense qu'on va pouvoir continuer la discussion après. Donc, vous allez vous associer à moi, n'est-ce pas, pour féliciter M. Benzine pour cette causerie. Une causerie extrêmement riche, en tout cas, et qui nous laisse avec de nombreuses réflexions. Donc, merci d'être venu si nombreux ce soir.
Merci.